Elle nous offre une chronique mensuelle et on est bien content de l'entendre aujourd'hui. France Cardinal, Rémette, infirmière et auteure, bonjour.
Bonjour.
On parle aujourd'hui d'un sujet qui est délicat, mais qui peut être très outillant pour les familles qui nous écoutent, à savoir comment aborder le sujet de la maladie d'un proche avec un enfant, un adolescent. Et je pense que la première chose que l'on veut mettre de l'avant aujourd'hui, France, c'est que l'enfant ne conçoit pas les choses de la même manière qu'un adulte. Il a son rythme et sa compréhension des choses.
Oui, tout à fait, tout à fait. Même le caractère irréversible de la mort, il ne saisit pas encore, hein, plus il est jeune, bien sûr. Tu sais qu'en Amérique du Nord, c'est un sujet, je dois dire, qui me touche particulièrement. C'est vrai que c'est touchant de parler d'une maladie grave ou de la mort d'un parent. Et au Québec, j'ai fait des recherches et selon la Régie des rentes du Québec, il y a près de 17 000 enfants ou jeunes là, qui bénéficient de la rente de l'orphelin. Alors, on en a plusieurs au Québec et on dit que ça correspond à environ un enfant sur 40 qui va être touché à un moment ou un autre là, du décès d'un parent. Alors, effectivement, que signifie la maladie grave d'un proche pour l'enfant? Bien, ils composent au fur et à mesure de la progression de la maladie aussi, les enfants, à leur propre rythme. Et puis, ils vont exprimer à leur façon ce qu'ils ressentent. Oui. Et des parents qui vont hésiter à leur en parler, ils veulent les préserver. Et ça, c'est peut-être pas la bonne route à suivre. Alors, c'est de ça qu'on aimerait parler aujourd'hui, oui. En fait, l'importance d'en parler.
Parce que les émotions vont se traduire chez l'enfant de plein de façons et parfois de façon un petit peu moins souhaitable.
Oui, les émotions, effectivement. D'ailleurs, c'est pas seulement au niveau affectif qu'il va avoir des réactions, mais ils peuvent avoir des réactions dans leur corps aussi, comme par exemple ressentir une grande fatigue.
Mm-hmm.
Oui, et au niveau des réactions possibles quand ils apprennent ou qu'ils comprennent qu'un parent est gravement malade et qu'il se passe quelque chose de sérieux, eh bien, il peut devenir hyperactif, on peut observer de la régression. L'enfant peut avoir de la difficulté à se concentrer.
Oui. Mais un peu à l'instar d'un adulte, c'est-à-dire il y a des hauts et des bas, et cette nouvelle-là engendre une panoplie de réactions.
Tout à fait, oui. Tout à fait. Et c'est important d'en parler précocement, parce que l'enfant saisit qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas comme avant. Il y a des perturbations dans le quotidien. Ce qui est pas dit verbalement est ressenti dans le non-verbal, hein, dans les réactions des personnes autour de lui. Alors, c'est pourquoi on suggère très fortement d'en parler, mais d'en parler, de se préparer, oui, à aborder la question aussi.
Donc, maintenant, il y a différentes questions qu'on peut se poser en tant que parent, de proche d'un enfant, lorsque vient le temps d'annoncer cette nouvelle, c'est-à-dire la maladie grave d'un parent, d'un proche de l'enfant.
Parfait.
J'imagine, France, d'entrée de jeu, ça dépend quel âge l'enfant.
Oui, mais même à ça, on suggère de réunir les enfants de tous les âges lorsqu'on aborde la question avec eux.
Mm-hmm.
Et chacun va saisir ce qui est en mesure de saisir à cette étape de son développement.
Mm-hmm.
Et qui devrait parler aux enfants? Bien évidemment, idéalement, les parents. Hein? Un des parents ou les parents ensemble serait davantage indiqué. Par contre, si un parent se sent vraiment n'est pas capable de faire de la peine à son enfant, il a peur d'aborder la question. Dans certains cas, il pourrait peut-être être utile de demander à une personne qui est très proche des enfants d'aborder la question avec eux.
Grand-papa, un oncle,
voilà.
Un ami, oui.
Oui, exactement. Et ça peut être un parrain aussi, hein, qui ou une marraine qui est très près de l'enfant.
Mm-hmm.
Alors, ensuite, comment se préparer? Bien, je pense que c'est important que les parents, si ce sont eux qui abordent la question, mais qu'ils aient la même vision, hein, qu'ils s'en parlent avant, qu'ils aient la même vision avant de la situation, puis de définir un peu ce qui va être révélé pendant cette rencontre-là. Et puis aussi, de choisir un moment propice pour le faire. Hein. On fait pas ça devant la télévision qui est allumée ou si le téléphone sonne sans arrêt dans la maison, mais ça va venir perturber là, le propos et le moment d'intimité qui est si précieux à ce moment-là. Puis aussi, on suggère de pas le faire avant la sieste ou avant le coucher, parce que là, les enfants vont être isolés tout de suite après, puis c'est pas une bonne chose.
Oui, même qu'on recommande de prévoir une activité ensemble après, ou du moins dans les jours qui suivent.
Oui, tout à fait. C'est l'idéal. de leur proposer une sortie au cinéma, au restaurant ou une activité plus physique là,
oui.
qu'ils préfèrent, les glisser dehors avec un des parents par la suite. Il y a une panoplie d'activités possibles. Il y a d'autres parents qui vont choisir aussi de dessiner ou de colorer en même temps qu'ils parlent avec eux. Hein. Ça dépend de l'âge de l'enfant, mais ça peut être rassurant à ce moment-là pour l'enfant d'avoir une petite activité à côté.
Oui. Maintenant, France, une question qui, je pense, vient à beaucoup de parents. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis pas? Est-ce que je dois tout dire la vérité? Bien sûr, notre enfant n'a pas toujours des connaissances d'oncologie ou de médecine. Mm-hmm. Comment on aborde les questions un petit peu plus délicates, là, directement liées à la maladie et à l'état de la personne?
Bien, c'est important d'utiliser des mots simples, faciles à comprendre, et puis de nommer la maladie. C'est un cancer, de nommer le mot cancer. Mmh. Ça évite toute confusion. De partager aussi les sentiments ensemble qui se vivent au moment où on en parle. Puis aussi ce que cette annonce-là va provoquer, effectivement. Leur permettre aussi de poser des questions et de valider ce qu'ils ont compris de la situation. Il y a des gens qui vont même préparer un aide-mémoire pour s'aider là, durant cette rencontre-là. Et puis, il importe aussi d'accompagner l'enfant puis d'explorer avec lui ce qu'il perçoit, comprend et ce qu'il questionne intérieurement. Alors, explorer ce qu'ils comprennent, je le répète, de la situation. Et puis, poser des questions comme, par exemple, avez-vous des préoccupations particulières? Avez-vous des questions? Avez-vous tout compris?
Mm-hmm.
Est-ce que vous pouvez l'expliquer dans vos propres mots? Avez-vous besoin d'éclaircir certains aspects? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe, qui vous inquiète par rapport au futur? Et puis les rassurer à ce niveau-là. Et puis même se projeter un peu dans le futur avec eux pour dire, écoute, s'il arrive quelque chose, il y a telle tante, il y a telle marraine, il y a ton père ou ta mère, telle personne qui va être avec toi, qui va te supporter. C'est très important, tout ça. Mm. Et aussi les rassurer au niveau de l'amour qui existe au sein de la famille. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, finalement. C'est de provoquer des rencontres ensemble. Et même pour les plus vieux, on dit que de faire des échanges puis de parler de son passé, pour un parent qui va partir, de lui raconter des histoires ou des anecdotes du passé, des éléments qui sont importants à transmettre à leur adolescent, qu'il va garder ensuite. Et ce que la littérature nous dit, c'est que les souvenirs qu'ont les enfants de leurs parents après leur départ sont très important pour leur identité future, pour construire leur identité. Comme par exemple, un enfant qui perd son parent alors qu'il a 8 ans, bien à 12 ans, il peut revivre une certaine anxiété, puis aussi un certain besoin de définir son identité en lien avec ce qui était son parent. Il va se dire, est-ce que j'aurais été le même si ma mère ou mon père avait vécu? Qu'est-ce qui a changé? Puis qu'est-ce qui aurait pu m'apporter? Quel souvenir j'ai de lui? Quelle valeur je voudrais garder avec moi? Tous ces éléments-là sont fort importants.
Oui. Franck, je ne peux m'empêcher de vous demander quoi faire, quoi dire lorsque cette question très crue, très directe, mais on le sait, les enfants ont tendance à aller dans des réflexions et des questions très directes, mais cette question très difficile, est-ce que tu vas mourir? Évidemment, c'est délicat, mais on peut s'attendre à recevoir cette question-là.
Absolument. Puis je pense qu'il faut être franc avec l'enfant. Il faut éviter les mensonges. Il faut éviter ces pièges-là. Hein. Et puis, oui, il faut le dire, il faut le nommer, mais en rassurant toujours et en préparant l'enfant à cette éventualité-là.
Mm-hmm.
Parce que si on ne le fait pas et que le décès arrive, le choc va être encore plus grand.
Oui.
C'est ça qui se passe. Hein.
Oui.
On parle de parents, mais on peut parler aussi de grands-parents. Hein. Moi, j'ai côtoyé différentes personnes au cours de ma vie professionnelle. Puis j'ai vu des enfants réagir fortement aussi à la perte d'un grand-parent.
Bien sûr.
Et j'ai été quelquefois étonnée, mais c'est que la relation, hein, le deuil qui va suivre va être en lien avec le niveau de relation qu'on a avec la personne qui est partie. Puis il y a des enfants qui sont très, très près de leurs grands-parents. Alors ça aussi, c'est un élément dont il faut tenir compte et les préparer très bien, les supporter par la suite.
Oui. Vous parlez d'éviter le choc, d'être franc, d'être honnête. Et il y a aussi, je trouve important de le souligner, de dire les choses pour pas que l'enfant s'invente des scénarios parce que la nature de l'enfant même l'amènera à inventer le pire et peut-être même à vivre de la culpabilité.
Oui, puis il faut éviter ça à tout prix. Il faut le prévenir. On parle de culpabilité. Des enfants qui vont dire « c'est de ma faute si papa est malade ou si mm-hmm. maman est malade », mais non, non. Puis aussi d'autres, il faut le clarifier avec lui de façon très ferme. Hein. Et aussi, il y a des enfants qui vont avoir peur d'attraper cette même maladie-là. Ils pensent que c'est contagieux, la mort. Alors ça aussi, il faut démystifier tout ça.
Oui.
Et avant qu'on se quitte, je voudrais parler de ressources. J'aimerais bien que vous me mentionniez là. Je vais garder quelques minutes pour parler.
Allez-y,
de ressources.
On est
ça
à la fin.
Bon,
oui, voilà.
Bon, alors écoute, il y a des guides. Moi, il y a mon livre là, Quand la vie se fragilise, où j'ai un chapitre qui traite de cet aspect-là. Mais il y a également des petits guides. L'enfant et l'adolescent face au cancer d'un parent. Guide pour la famille et les intervenants de la Société canadienne du cancer qui est disponible sur le web. Il s'agit de dactylographier là, le titre et on y arrive, ou d'aller directement au site de la société. Ensuite, comment parler avec l'enfant de la maladie grave et de la mort? Ça aussi, j'ai un site pour ça, www.afpssu.com. Et enfin, une ressource inestimable, Deuil Jeunesse, qui est un organisme qui se dédie au soutien des jeunes, des enfants. José Masson est la directrice générale. Je suis allée voir le site. C'est extraordinaire. Là, on peut aller chercher plein d'informations à ce niveau-là. Le numéro de téléphone est le 1-418-624-3666 et la ligne sans frais est le 1-855-889-3666.
Ce sont toutes de bonnes ressources, France Cardinal Remet, Deuil Jeunesse en est une et en plus située bon, à Québec, à Longueuil. Oui. Il y a d'autres succursales aussi, on pourra glisser sur notre site ces excellentes ressources. Perfect. Je renomme le titre de votre livre, Quand la vie se fragilise, un guide pour vous et vos proches aidants. C'est chez Multimonde, France Cardinal Remet. Merci beaucoup pour cette chronique. C'était un sujet qui était délicat, mm-hmm. mais c'était essentiel de l'aborder. Vous l'avez fait très, très bien.
Mais merci beaucoup.
Merci.